France Culture. Les midis de culture. Élise Lépine.
Bonjour et bienvenue dans les paysages d'Agnès Varda, l'immense dame du cinéma français, réalisatrice de Cléo de 5 à 7, du Bonheur, de L'une chante, l'autre pas, entre autres merveilles, était aussi photographe et artiste visuel. Deux expositions nous ouvrent les portes de son univers, la première au musée Carnavalet, le Paris d'Agnès Varda de ci de là, est une promenade visuelle et émotionnelle entre la rue Daguerre où elle vivait et travaillait, et le Paris de ses amis, de ses amours et des inconnus, sur lesquels elle posait son regard tendre et pénétrant. La deuxième à Rodez, Agnès Varda, je suis curieuse, point, célèbre la relation de la cinéaste au paysage maritime, car elle partageait avec Pierre Soulages le goût de la mer et adorait les plages. Pour plonger dans l'univers protéiforme d'Agnès Varda, je suis en compagnie de Rosalie Varda, sa fille, costumière, actrice, réalisatrice et productrice de cinéma, d'Hortense Bellhôte, comédienne et historienne de l'art, et de la critique Charlotte Garçon, rédactrice en chef adjointe des Cahiers du cinéma. Bonjour Rosalie Varda.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous à distance pour évoquer le travail d'Agnès Varda. Je rappelle que vous avez travaillé sur les deux expositions dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour Hortense Bellhôte.
Bonjour.
Bonjour Charlotte Garçon.
Bonjour.
Avant de partir en voyage dans les univers d'Agnès Varda, j'aimerais saluer l'immense metteur en scène de théâtre américain Bob Wilson qui nous a quittés hier. Parmi ses mises en scène les plus célèbres, on pense à Madame Butterfly de Puccini en 1993, l'opéra de Katsu de Bertolt Brecht en 2009, mais aussi la Traviata de Verdi en 2015. On salue bien sûr cette magnifique carrière. Rosalie Varda, je crois que vous vouliez dire quelques mots en hommage à Bob Wilson.
Écoutez, oui, Bob Wilson, c'est quelqu'un qui a été absolument important et novateur dans le monde du théâtre contemporain. On pourrait dire qu'après-guerre, il y a eu Jean Villard avec le Théâtre National Populaire et qui a créé le Festival d'Avignon. Mais Bob Wilson a amené une modernité, une radicalité assez extraordinaire. Moi, je me rappelle d'avoir vu son premier spectacle en France, Le regard du sourd. De mémoire, je dirais que c'est 71, c'est un spectacle de mémoire très long. Et je me rappelle très bien, ma mère Agnès avait l'affiche de ce spectacle dans son atelier rue Daguerre. Et elle m'avait emmenée et ça m'avait vraiment bouleversée au sens de découvrir un autre monde, une autre façon de penser le théâtre. Voilà. Alors après, j'ai vu pas mal de ces productions, dont évidemment Traviata, Butterfly, les deux spectacles extraordinaires qu'il a fait avec Isabelle Huppert, à qui je pense ce matin, Orlando, et le dernier, Mary Said What She Said. Il est à part, il était nécessaire à l'idée aussi du mouvement, de la lumière, de l'abstraction. Il disait toujours, il y a quelque chose d'assez beau sur l'abstraction. Je me rappelle aussi que Louis Aragon l'aimait énormément parce que ma mère était très amie avec Louis Aragon. Enfin voilà, c'est une perte évidemment pour nous, mais la chance des artistes, c'est que leurs œuvres restent et c'est ça qui nous console un tout petit peu.
Merci pour ces mots très touchants, Rosalie Varda. Et on va entamer cette promenade aux côtés d'Agnès Varda en commençant par Paris, la ville où elle s'installe en 1943 avec ses parents et où elle étudie d'abord l'archéologie, la gravure et l'histoire de la peinture à l'école du Louvre avant de préparer un CAP de photographie qu'elle obtient en 1949. Et elle s'installe en 1951 au 86 rue Daguerre qui va devenir à la fois son appartement, son atelier, son studio, un lieu d'exposition aussi. C'est un endroit où l'on passe beaucoup de temps à travers l'exposition Le Paris d'Agnès Varda, donc au musée Carnavalet. C'est un lieu fondamental pour elle dans son histoire. Rosalie Varda, est-ce que vous pouvez nous décrire cet endroit, nous y emmener avec vous dans cet endroit rue Daguerre?
Alors, avec plaisir. En fait, tout est arrivé que son père, Eugène Varda, en bon père de famille, après la Deuxième Guerre mondiale, quand ils sont montés à Paris et ils ont d'abord, ses parents habitaient au 13 boulevard Raspail, il a décidé d'acheter à chacun de ses enfants un petit appartement. Et Agnès a dit, moi, je veux pas d'un petit appartement, je veux un outil de travail je veux un lieu de travail où je vais pouvoir faire un atelier pour faire des portraits, des photos et avoir aussi un laboratoire pour tirer ces photos. Puisque Agnès a d'abord commencé à tirer ses photos dans la baignoire d'une salle de bain de l'appartement familial. Et donc son père lui a acheté, comme il avait dit lui-même, ce taudis au 86 rue Daguerre, qui était deux ateliers, l'un en face de l'autre avec une mini cour au milieu, pas de chauffage, des toilettes, comme on disait, à la turque dans la cour. Et elle s'est installée là en 51. Dans une manière très précaire, hein, juste un poêle à bois et à charbon. Et en fait, ça a été pour elle extrêmement important car elle a vraiment pu faire cet atelier de photo au premier étage avec une lumière qui venait du ciel avec une verrière où elle a installé un mur comme ça neutre et elle a commencé à faire une série de portraits, notamment d'abord tous ses amis, ses filles et garçons, et puis son laboratoire. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à tirer des photos pour le Théâtre National Populaire et pour toutes les commandes. Ce qu'on oublie, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on perçoit Agnès comme une cinéaste, mais la rue Daguerre a été importante, a été un lieu de vie, un lieu de travail. Elle y a reçu ses amis, elle y a fait sa première exposition en juin 54. Elle a tiré elle-même ses photographies, elle les a contrecollées sur des plaques d'Isorel et elle les a installées dans la cour de la rue Daguerre pendant une semaine et elle a invité tous ses amis, artistes, les gens du quartier à venir voir cette exposition. Et puis plus tard, cette rue Daguerre, c'est devenu comme un espèce d'emblème où elle donnait toujours ses interviews dans la cour, même l'hiver. Elle aimait cet endroit, elle aimait la rue Daguerre, elle disait « j'habite rue Daguerre » en fait. Elle disait pas « j'habite Paris », mais elle disait « j'habite rue Daguerre ».
Et comme vous le disiez, Rosalie Varda, elle travaille d'abord comme photographe. Elle va photographier donc Jean Villard, Federico Fellini, Alexandre Calder, mais aussi ses amis, des inconnus, des voisins. Hein. Hortense Bellot, quel rapport Agnès Varda entretient-elle avec la photographie et quel regard pose-t-elle sur ses modèles ?
Eh bien, je crois que c'est important ce que Rosalie Varda vient de dire sur le fait qu'il ne faut pas la limiter aussi à son travail de cinéaste. Mmh. Et que moi, j'ai abordé Agnès Varda avec l'angle d'historienne de l'art que je suis. Et de fait qu'elle ait fait l'École du Louvre, à mon avis, ce n'est pas anodin non plus. Il y a maintenant d'ailleurs une salle à l'École du Louvre qui porte son nom. Et ça, on le voit bien dans l'exposition à Carnavalet, tout son rapport à la photographie, mais aussi à la sculpture. Et par des personnes qu'elle côtoie, Valentine Schlegel évidemment, puis après Calder, etc. Et il y a notamment une série de photos, moi, que je ne connaissais pas et que j'ai découvertes à l'expo, qui est c'est une série en 56 pour un magazine où elle va prendre des photos de modèles à l'Académie de la rue de la Grande Chaumière et à l'Académie Julian, et où on a des modèles nus qui posent au milieu d'un atelier de sculpture. Et qui renvoie tout de suite à une des séquences de Cléo de 5 à 7, en fait. Et tout d'un coup, on voit qu'il y a la question de la sculpture, notamment, et une sorte de leitmotiv à l'intérieur de son œuvre. Et la question du modèle et de la sculpture qui est un peu cette espèce d'humanité figée. Où toutes ces mises en scène avec les ailes d'ange qui servent aussi d'affiches pour cette expo, tout d'un coup m'ont fait repenser effectivement son œuvre avec un rapport à la mise en scène et un rapport à une confrontation à l'histoire de l'art et à la notion de modèle. C'est comme ça que je l'ai abordé aussi dans le ciné-club que j'avais fait, No Picture Please, où je comparais l'œuvre de Agnès Varda et Sarah Maldoror, où un petit peu par hasard, en regardant le film Les Cariatides, qui pour moi est assez central dans son rapport justement à Paris et à l'art ancien, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de liens avec l'œuvre de Sarah Maldoror, d'abord par leur date, qu'elles avaient exactement, quasiment à une année près, les mêmes dates de naissance et de mort. Grâce à Anouchka Deandrade, j'ai appris aussi, et à Rosalie Varda, j'ai appris ce qu'elles se connaissaient très bien, que Varda avait même produit un des films de Sarah. Il y a quelque chose qui est très lié. Et dans les mêmes années, Fin des années 70, début 80, autour de la cinquantaine, elles font des films sur la sculpture à Paris. Et tout ça, pour moi, racontait beaucoup de choses sur la question aussi de la femme cinéaste et de son ancrage dans la grande culture, dans la patrimonialisation et dans le grand art. Et c'est pour ça que je disais que ça n'est pas rien qu'elle ait aussi sa salle à l'École du Louvre. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'elle a travaillé tout au long de sa vie, tout au long de ses films, comme une sorte de reprise de pouvoir sur le grand art. Et qu'elle aurait pu être cinéaste ou autre chose, finalement.
Oui, elle le disait d'ailleurs elle-même, hein, qu'elle aurait pu être vanneuse ou un autre métier qui n'a rien à voir. Charlotte Garçon, comment est-ce que son travail de photographe a influencé la pratique cinématographique d'Agnès Varda?
Je crois que c'est une chance, effectivement, qu'elle soit venue d'autre part que le cinéma. On l'associe souvent à la Nouvelle Vague, à cause de la date de la fin des années 50, mais aussi à cause de sa proximité amicale avec le petit groupe de critiques qui vont devenir cinéastes à la fin des années 50 et qui sont d'abord critiques au Cahier du Cinéma. Donc elle était proche et on va notamment voir Jean-Luc Godard dans Cléo de 5 à 7, dans un film dans le film dans Cléo de 5 à 7. Mais il faut quand même aussi rappeler la différence. La différence avec la Nouvelle Vague, enfin en tout cas il y en a deux. La première, bien sûr que être une femme cinéaste et surtout à cette époque, ça fait toute une différence. Il faut vraiment aller chercher les héroïnes de films de la Nouvelle Vague. Cléo, elle est absolument centrale. Toute sa subjectivité imprègne son parcours dans la ville. Donc, c'est pas rien que quelqu'un attende des résultats médicaux sur ce qui se passe dans son corps. Est-ce qu'elle a un cancer ou non? Et comment on voit la ville quand on traverse la ville avec cette anxiété-là particulière? Et puis, l'autre chose aussi, c'est que les gens de la Nouvelle Vague, ils viennent de leur cinéphilie. Ils viennent de films qu'ils ont déjà vus, souvent des films américains. Et ça informe leur regard et leur pratique du cinéma en France. Ils adorent aussi Renoir, voilà. Elle le disait, elle n'a jamais été cinéphile au début. Elle avait vu 9 ou 10 films, dit-elle, à 25 ans. Aujourd'hui, ça, on se demande comment ce serait possible aujourd'hui. Mais du coup, ce qui est beau, c'est qu'elle vient, elle a vraiment introduit ce regard documentaire photographique, disons. Je dirais presque peut-être des photographes de la génération précédente. C'est-à-dire ce Paris des années 30 qu'on voit dans toute une photographie, y compris Élie Lothar, par exemple. Mais elle l'introduit au cinéma parce que ça fait toute une différence que d'organiser dans sa mise en scène, comme vous le disiez Hortense, une tension entre le mouvement, hein, qui est le cinéma même, et la fixité. Comment on introduit même des photos à l'intérieur de films?
Vous parliez de Cléo de 5 à 7 à l'instant, Charlotte Garçon. C'est effectivement l'un des chefs-d'œuvre hein, d'Agnès Varda. On va écouter un extrait de ce film.
Vous aimez le bruit de l'eau?
Oui.
C'est calme ici, vous ne trouvez pas?
Oui, je trouve.
Tous les enfants ont disparu.
Quoi disparu?
Les autres jours, c'est plein d'enfants.
Et alors aujourd'hui?
Aujourd'hui, ils sont tous à l'autre bout, à cause des travaux de la pièce d'eau. Ils sont tous allés voir.
Pourtant, de l'eau qui coule, il y en a ici.
Eh oui, l'actualité, c'est bien plus rigolo.
Ce qui est rigolo, c'est que vous soyez au courant.
Je suis curieux.
Alors pourquoi vous n'allez pas voir?
Ah, je suis plus paresseux que curieux, je crois sans voir. Enfin, j'aime mieux être ici. Il fait frais, vous n'avez pas froid?
Non.
Il fait pourtant pas tellement chaud.
Moi, ça va, je suis plus couverte que vous.
Devrait faire très beau, c'est l'été depuis ce matin.
Je trouve pas. Pour moi, l'été, c'est les vacances, le reste, c'est n'importe quoi.
Mais aujourd'hui, c'est l'été officiel, c'est Flore, c'est vous.
Vous dites n'importe quoi.
Oui, moi j'aime bien parler. Ça ne vous intéresse pas de savoir que c'est le solstice aujourd'hui, le jour le plus long de l'année?
Le plus long, c'est bien vrai.
Alors si vous le savez, vous savez aussi que c'est le jour où le soleil quitte les Gémeaux pour entrer dans le cancer.
Vous dites vraiment n'importe quoi, taisez-vous. Excusez-moi.
Rosalie Varda, quel pari nous raconte Agnès Varda à travers ce film, si vous m'entendez, Rosalie Varda?
Oui, je vous entends très bien. Écoutez, d'abord, ce qui est agréable qu'on voit Cléo de 5 à 7 aujourd'hui, c'est on redécouvre un Paris qu'on ne connaît plus, puisque quand même Paris a un peu changé. Moi, je suis toujours émue de ce film pour plein de raisons personnelles. D'abord, le personnage de l'homme qu'elle rencontre, c'est mon père, Antoine Bourseiller, parce que je suis la fille d'Agnès Varda et d'Antoine Bourseiller, mais j'ai été élevée par Jacques Demy et adoptée par Jacques Demy. Et donc, quand Antoine a joué dans ce film, ils étaient déjà séparés depuis plusieurs années. Donc, y a quelque chose de très doux. Je pense qu'elle voulait que ce personnage masculin, à côté de cette femme qui attend des résultats médicaux et qui, d'une certaine manière, va prendre conscience que, pour l'instant, elle a été regardée par le regard de l'autre, par le regard d'un homme, des hommes, par un regard de désir, et qui, d'un seul coup, va prendre conscience et va, d'un geste symbolique, enlever sa perruque et commencer à regarder la société, les gens autour d'elle. Et j'étais touchée, pour rebondir sur ce que vous aviez dit toutes les deux, Hortense et Charlotte, d'abord sur Sarah Maldoror, dire que Agnès a fait des photographies en 58 de la pièce de théâtre Papa Bon Dieu, qui avait été mise en scène par Michel Bittold. Et donc, il y a eu un rapport des années 50, dès les années 50 avec Sarah Maldoror, de ce côté-là. Et puis sur Cléo, vous dire plusieurs choses. D'abord, ce que je crois très intéressant, c'est que de rappeler quand même comment elle a réussi à faire et à réaliser ce film, tout ça est venu quand même par Jean-Luc Godard. Elle rencontre Jacques Demy en 58 au Festival de Tours. Jacques Demy est très ami avec Jacques Rivette et avec la bande des Cahiers, dont Jean-Luc. Et Agnès, Jean-Luc, Jacques et souvent Rivette vont dîner quasiment deux fois par semaine ensemble, fin des années 50, début des années 60. Et c'est parce que Godard a eu un succès avec À bout de souffle que son producteur lui dit « Vous n'avez pas un ami ?» et il a présenté Jacques Demy qui a réalisé Lola. Et ensuite, « Vous n'avez pas quelqu'un d'autre ?» Et c'est comme ça qu'Agnès a réalisé Cléo de 5 à 7. Petit rappel aussi, c'est que la bande des Cahiers, que Agnès ne connaissait pas en 54, Truffaut n'avait pas aimé La Pointe Courte et avait fait une mauvaise critique. Donc, elle se sentait quand même très rejetée par ce milieu du cinéma. Et c'est vraiment après la réalisation de Cléo qu'elle a senti qu'elle rentrait un petit peu dans ce milieu-là, qui était quand même un milieu, il faut bien le reconnaître, qui ne laissait pas beaucoup de place aux femmes. Et aujourd'hui, on reconnaît La Pointe Courte comme quand même un film très précurseur de la nouvelle vague, ce qui n'était pas le cas fin des années 50, début des années 60, où le terme de nouvelle vague a été un peu inventé. Je vous répète ce que je perçois et ce que Agnès m'a dit, mais elle en a quand même souffert. Hein. Faut pas oublier que elle a souffert de ce manque de reconnaissance au début de sa pratique de mise en scène et de devenir cinéaste.
Hortense Bellotte, le cinéma d'Agnès Varda, c'est aussi un cinéma qui est engagé, qui est proche des gens. Comment a-t-elle conjugué ce regard très artistique dont on a parlé et qu'on entend hein, dans l'extrait, qu'on connaît, dont on est imprégné et puis qu'on retrouve dans les expositions, et en même temps cette pensée politique qui est aussi très présente dans l'exposition à Carnavalet, enfin dans ces expositions.
Justement, je m'étais beaucoup interrogée sur la dimension militante possible du cinéma d'Agnès Varda. On parle souvent du féminisme, et qui est assez explicite dans pas mal de films. Et grâce à l'expo à Carnavalet, j'ai découvert aussi ce film donc qui est perdu, qui est Loin du Vietnam. En 1967, où en fait c'est un film collectif avec René, Godard, Klein, Demy, et où elle est censée faire une alors ils appellent ça sketch, enfin en tout cas une séquence, comme une sorte de court-métrage. Et on est en 67 et c'est un parcours, une errance complètement hallucinatoire d'une femme qui se promène dans le 20e arrondissement. Alors moi qui suis une vraie enfant de la rue de Bagnolet et de la rive droite, et ben ça me parle énormément. Et donc c'est dans les années 60 où, face à la destruction des anciens quartiers insalubres du 20e arrondissement, elle a des sortes de flashs hallucinatoires de la guerre du Vietnam. Et Il ne reste que quelques photos du tournage et des notations de script. On ne sait pas. Normalement, c'est Chris Marker qui devait finir le montage et que finalement, le truc a été perdu. Et de fait, je pense qu'en fait, c'est un des seuls films avec une dimension d'actualité politique claire d'Agnès Varda. Mais en fait, dans lequel on retrouve l'errance hallucinatoire de Cléo et d'autres parcours comme ça, et où c'est une femme qui a peur des bombes et qui finit par être emportée par la police. Et dans cette espèce de relation aussi aux médias, c'est-à-dire que son parcours hallucinatoire est déclenché par la vue d'une photo de fœtus calciné. Dans un journal. Et ça, moi, je trouve que c'est d'une actualité folle dans notre rapport aussi à la violence du monde et ce qui fait écho dans notre quotidien, l'espèce de dichotomie entre les images qu'on voit de l'extérieur et comment on les vit et comment notre psyché est capable ou pas de les intégrer. Là, en l'occurrence, le personnage explose psychiquement.
Charlotte Garçon, il est question d'errance aussi dans Sans toi ni loi, 1985. Quel était le rapport d'Agnès Varda à l'errance?
Oui, c'est intéressant ce que vous disiez sur les ruines à l'intérieur de Paris, c'est-à-dire que cette articulation, ce moment où Paris devient autre chose, qui a intéressé d'ailleurs Jean-Luc Godard aussi dans deux ou trois choses que je sais là, c'est-à-dire qu'il y a ces ruines, elle a aussi photographié par exemple Fellini à la Porte de Vanves dans des gravats, voilà, tout ça c'est la zone, c'est le Paris de la zone. Il y a un rapport avec Sans toi ni loi, puisque Sans toi ni loi, c'est carrément une vagabonde. Ce n'est plus Cléo, qui est une jeune femme, une vedette de la chanson, on ne l'a pas dit, mais c'est une vedette qui est objectivée par les hommes et par la société de consommation. Là, c'est un cran supérieur dans l'intérêt que portait Varda, on pourrait dire aux oubliés, hein, on dirait peut-être aujourd'hui aux invisibilisés. Je ne pense pas qu'elle ait employé ce terme, mais au fond, voilà, ça c'est politique aussi, c'est-à-dire de s'intéresser aux endroits périphériques de la ville et aussi aux gens qui sont périphériques parce que dans l'opéra mouffe, ce sont les clochards. Voilà, ce sont des populations qui ne produiront pas forcément de l'art, qui ne sont pas. Alors, dans Sans toi ni loi, c'est une jeune vagabonde. Donc, à une autre époque, on est en 85, à une autre époque, ça aurait été une beatnik, etc. Mais là, c'est même pas idéalisé. Donc, Sandrine Bonner, qui a été découverte très peu de temps avant avec À nos amours, dans le rôle d'une jeune fille, petite bourgeoise, disons, une adolescente, voilà. Là, c'est le choc, c'est-à-dire que tout à coup, c'est une clocharde. Et le film est extrêmement construit, également chapitré, comme Cléo de 5 à 7, mais il suit en flashback sa déchéance, on pourrait dire en même temps, mais en même temps, sa radicalisation, puisqu'elle va au bout de cette errance à laquelle elle tient. Elle tient à ne pas faire société, à ne pas faire famille, à ne pas faire maison, et on a tout un arpentage d'un paysage de gens précaires qui vivent de manière précaire, que ce soit des immigrés qui sont employés pour faire les vendanges. Voilà. Et on a aussi tout un tableau, et ça, je trouve ça très politique, de ce qu'on appelait alors les nouveaux pauvres. On a oublié peut-être cette expression. C'est-à-dire, voilà, cette façon de continuer à habiter une société qui quand même vous rejette, mais on y travaille un petit peu. Alors, je ne veux pas dire que ce film est un documentaire sociologique, ça reste une fiction très structurée, voilà, avec un récit très, très particulier. Il y a aussi une actrice formidable, Macha Merrill, qu'elle rencontre sur son chemin. Mais en tout cas, ça porte aussi cette teneur politique-là.
Rosalie Varda, avant de parler rapidement des plages, est-ce que vous voulez réagir sur ce que viennent de dire Hortense Bellot et Charlotte Garçon ?
Oui, alors je voulais réagir sur deux choses. D'abord, sur Loin du Vietnam, Agnès a donc réalisé un des courts-métrages, puisque c'était un film collectif, un peu organisé par, totalement d'ailleurs organisé par Chris Marker, qui avait regroupé un certain nombre de réalisateurs et qui était un film qui a été produit par du mécénat pour s'opposer à la guerre du Vietnam, mais au départ c'était pour lever de l'argent. Agnès a réalisé son court-métrage et Chris Marker l'a enlevé du montage final sans prévenir Agnès. Mmh. Il a laissé le nom d'Agnès sur l'affiche et ça a été quand même une grande brouille entre Marker et Agnès. Pourtant, ils étaient très amis parce qu'Agnès a trouvé que c'était une trahison et surtout Marker, on ne sait pas, le négatif a disparu, donc on n'a plus que les photographies du tournage faites par Michel Laurent qui existent aujourd'hui. Et ça a été vraiment quelque chose de violent pour Agnès, c'est-à-dire cette élimination sans la prévenir, sans lui dire, et comme par hasard, quand même, c'est une femme qui a été éliminée de la bande des garçons qui était là. Ils sont restés fâchés des années, et puis finalement, Agnès a pensé que bon, voilà, elle aimait quand même Chris Marker, et que ensuite ils se parlaient tous les dimanches pendant des années et des années. Donc réagir là-dessus, réagir aussi sur Saint-Ouen Illois, qui a été un film inspiré parce que quand elle se baladait dans le midi en voiture, il y avait beaucoup de femmes comme ça, des jeunes femmes qui prenaient la route avec un sac à dos. Et elle en a pris une dans sa voiture. Et c'est quand même ce personnage qui l'a inspirée pour mener une enquête, comme elle faisait souvent, sur la région, sur les sans domicile fixe. Hein. Et elle a construit ce film, encore une fois, comme une sorte de fiction documentaire, très structurée, avec la musique de Johanna Brozovic et avec ses travelling qui vont de la droite à la gauche, qui structurent le film. C'est un film qu'elle a eu du mal à produire. Elle a vraiment cherché de l'argent, ça a été compliqué. Et bizarrement, c'est son seul succès populaire, puisqu'il a fait 1 million d'entrées en 85 et il est sorti au mois de décembre, au moment où il faisait froid. Et ce film lui a permis, j'allais dire, d'être un peu plus connu par le grand public. Hein. Saint-Ouen Illois a été vraiment un moment important dans sa carrière. Elle a fait le tour du monde avec ce film. Elle a gagné les Lions d'or à Venise pour elle et puis pour Sandrine Bonner hein, qui avait fait À nos amours de Piala. Et avec Saint-Ouen Illois, elle gagne son premier César. Et c'est un tournant dans sa carrière parce que d'un seul coup, elle recommence à voyager, à présenter le film qui a été aussi un gros succès aux États-Unis. Mais nous l'oublions pas, toujours difficile à produire, toujours chercher de l'argent, toujours se produire ou se coproduire, parce que les producteurs ne avaient peur d'elle et n'avaient pas envie de la produire. On en revient quand même au sujet de fond qu'on oublie maintenant, mais toute sa vie, elle a eu du mal à trouver du financement pour ses films.
Et il nous reste un tout petit instant, Rosalie Varda, pour évoquer l'exposition Je suis curieuse. À Rodez, qui nous plonge cette fois dans son rapport, le rapport d'Agnès Varda à la mer, au paysage maritime. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Oui, alors je vais vous en dire un mot et pas plus. C'est un parcours que j'ai conçu d'une manière un petit peu libre sur son rapport à la mer, d'abord Sète, les plages de Sète. Elle a habité un bateau dans le port de Sète, sur les quais pendant la guerre, mais aussi montrer des photographies qu'elle a faites dans les années 90 et dans les années 2000, monter une cabane faite en pellicule d'une copie de film 35 mm du film Le Bonheur, des installations comme Bord de mer ou Ping Pong Tong qui célèbre les objets en plastique et le bord de la mer, et la plage, et les enfants. Montrer aussi son rapport et son amitié avec Soulage, qu'elle a connu dans les années 50 à 7. C'est un parcours assez libre qui nous plonge dans un autre monde d'Agnès, puisque Agnès, je dis toujours, Agnès est comme un puzzle. Plus on travaille sur ses archives, plus on découvre la richesse de son œuvre, que ce soit photographique, que ce soit des installations ou que ce soit des films. Et c'est jusqu'au mois de janvier 2025.
Voilà, jusqu'au 4 janvier.
Voilà, et on a la chance d'être au musée Soulages, qui est extraordinaire, qui est un bâtiment d'une beauté incroyable. La collection Soulages que Pierre a donnée de son vivant pour créer ce musée est extraordinaire. Et c'est vraiment pas tout à fait facile à aller à Rodez, je vous l'accorde. Mais c'est une petite escapade qui en vaut le détour.
Merci pour cette promenade. Aux côtés d'Agnès Varda, Rosalie Varda, Hortense Bellotte, merci Charlotte Garçon. Merci beaucoup. Je rappelle donc qu'on peut voir ces deux expositions au musée Carnavalet jusqu'au 24 août et à Rodez, c'est jusqu'au 4 janvier 2026. Au musée Soulages, on se quitte sur le quintet pour clarinette de Mozart qui traverse Le Bonheur d'Agnès Varda.
France Culture. Les midis de culture. Élise Lépine.
Bonjour Ava Kahen, bienvenue dans cette deuxième partie des Midis de Culture. Vous êtes journaliste, critique de cinéma, déléguée générale de la Semaine de la Critique à Cannes depuis 2021, autrice de plusieurs livres, un livre sur Woody Allen, un livre sur Game of Thrones et un livre sur la gastronomie au cinéma. Et puis vous venez de publier nos premiers films aux éditions Marest. C'est un ouvrage d'entretien que vous avez mené avec différents jeunes réalisateurs et réalisatrices, avec leurs producteurs et leurs productrices, au sujet de leur premier film. Donc on lit vos échanges avec Jonathan Millet, réalisateur des Fantômes, Iris Kaltenbach, qui a fait Le Ravissement, Balogi, réalisateur d'Augure, Alexis Langlois, réalisateur des Reines du Drame, et Céline Devaux, réalisatrice de Tout le monde aime Jeanne. Avant de parler de ces échanges que vous avez eus avec ces cinéastes et ceux et celles qui les ont accompagnés dans leur aventure, leur première aventure cinématographique, on écoute Agnès Varda, à qui nous avons consacré la première partie de cette émission, qui évoque son entrée dans le cinéma.
Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire un premier film. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas trouver des années après. Je sais que j'étais photographe. Je sais que je m'étais, que plus jeune, quand j'avais 16-17 ans, j'avais eu envie d'écrire des poèmes, d'écrire des livres, que ça m'était sorti de l'esprit complètement. Et je ne peux pas dire que je n'aimais pas le cinéma existant puisque je ne le connaissais pas. J'ai eu envie de faire un film, je crois, parce que je me suis dit que ce serait très beau de trouver une forme qui soit en même temps la photographie, le son et leur distance et leur décalage.
Ava Kahen, est-ce que vous reconnaissez dans ce souvenir d'Agnès Varda certains des cinéastes avec lesquels vous avez échangé? Ce qui ressort beaucoup, ce qui m'a marqué dans ces échanges, c'est d'une part la curiosité dévorante de ces cinéastes et d'autre part, pour certains, certaines et pour d'ailleurs beaucoup d'entre eux, finalement, ils ne sont pas beaucoup allés au cinéma dans l'enfance. Certains n'avaient pas la télévision. Ça arrive un peu comme ça, comme un virus. Est-ce que vous reconnaissez cet appétit soudain dont parle Agnès Varda?
Complètement. Et c'est vrai que j'ai posé la même question à tous les cinéastes, à tous les producteurs et productrices dans ce livre. La première question, c'est quel est votre rapport à l'image? C'est quoi la première image qui vous a marqué enfant? Et beaucoup m'ont dit effectivement qu'ils n'avaient pas forcément accès à la télévision, accès au cinéma, que tout ça est venu, j'allais dire par étapes, mais en tout cas qu'il y avait un appétit, un amour des histoires en tout cas. Et je crois que c'est les récits d'abord, avant l'image, ce qui m'a paru être le point d'ancrage entre tous ces récits, c'est le rapport aux récits.
C'est cette envie sans fin de raconter des histoires. Et puis, il n'y a pas seulement l'envie de raconter des histoires, il y a aussi l'acte de foi. Audrey Diwan, dans la préface, dit « Le principe moteur de la réalisation d'un premier film est un acte de foi ».
Tout à fait. Je crois que les producteurs, les productrices qui accompagnent en tout cas les premiers films croient, mais j'allais dire viscéralement, en la vision d'une autrice ou d'un auteur. Et donc oui, c'est un vrai acte de foi, c'est un petit miracle en fait de pouvoir faire un premier film, de trouver les financements, de trouver des regards et des soutiens pour adhérer à une vision singulière, une vision nouvelle, novatrice, puisqu'on parle dans ce livre de premiers films qui ont en eux, j'allais dire, de nouvelles images, de nouvelles histoires, de nouveaux personnages, de nouveaux récits. Donc voilà, il faut pouvoir être accompagné et je crois que oui, c'est un acte de foi.
Oui, vous aviez envie justement d'interviewer aussi, pas seulement les réalisateurs, les réalisatrices, mais aussi producteurs, productrices. Et ce qui m'a intéressée dans ce livre, c'est que, par exemple, Benoît Roland dit « Ce qui est fascinant dans la relation prod-réal, c'est qu'elle est constamment mise à l'épreuve. »
Complètement. À l'épreuve du temps, bien entendu, à l'épreuve du temps de fabrication du film, puisque tout commence dès l'écriture, évidemment, et le livre va retracer les différentes étapes de fabrication de l'écriture jusqu'à la sortie du film et sa réception critique et publique. Donc oui, c'est une relation qui est mise à mal de temps en temps, parce que forcément, c'est pas un long fleuve tranquille de faire un film, et donc il y a des obstacles qui se mettent sur le chemin des artistes, et les producteurs et productrices sont là vraiment comme des compagnons. En fait, c'est une vraie forme de compagnonnage pour l'artiste et pour aider à faire en sorte que ces obstacles, on trouve des solutions pour pouvoir les contrer.
Parce que j'imagine que c'est plus difficile pour un producteur de s'occuper, de pousser un premier film. Qu'est-ce qui, dans ces films, quels ingrédients sont nécessaires pour donner envie à un producteur, à une productrice de faire cet acte de foi avec le réalisateur?
Je crois que c'est la foi, justement, du cinéaste ou de la cinéaste qui guide tout ça. C'est vraiment la vision d'un auteur ou d'une autrice qui est d'abord le ciment de cette relation producteur-productrice. Et c'est vrai qui est très beau dans les échanges que nous avons eus avec les cinéastes et les producteurs dans ce livre, c'est de voir à quel point cette relation s'est tissée dans le temps. Je pense par exemple à Jonathan Millet et Pauline Seglan. Ils se sont rencontrés à un moment où Jonathan Millet commençait sa carrière de cinéaste, mais en tant que documentariste, aussi que de court-métragiste d'abord. Et voilà, ça s'est vraiment installé dans le temps, cette relation, et il a fallu trouver le bon projet, le bon premier film, justement. C'est une question qu'on se pose, c'est quoi un bon premier film? C'est quoi la bonne première idée à exposer? Généralement, c'est une idée qui est assez proche du cinéaste lui-même, assez proche de ce qu'il a envie de raconter du monde, de ce qu'il a envie de raconter de sa vie. Enfin voilà, donc il y a une part, j'allais dire, presque psychanalytique dans un premier temps, dans la relation qui s'établit entre le cinéaste et le producteur. Et puis par la suite, je voulais montrer que le producteur n'est pas là que pour trouver de l'argent en réalité. Bien sûr que l'argent, c'est le nerf de la guerre et que sans argent, on ne fait pas de cinéma. Mais ça va au-delà de ça. Je crois que c'est un vrai compagnonnage de tous les instants, à toutes les étapes. Parce qu'évidemment, il y a la recherche des fonds, ensuite le tournage, et puis ensuite le montage, la post-production, etc. etc. Donc en fait, c'est vraiment sur un temps long que s'inscrit cette relation. Et la dernière question que je pose d'ailleurs dans le livre à chacun et à chacune, c'est est-ce que le deuxième long métrage, vous allez le faire ensemble? Parce que voilà, je remarque aussi qu'il y a des couples comme ça, des duos, des trios de producteurs, productrices, cinéastes qui fonctionnent extrêmement bien.
On a vraiment l'impression de lire à la fois une aventure, à la fois des moments de grâce, des moments de fusion, et des moments douloureux. Oui. À un moment, Balogi dit on continue d'avancer, mais en boitant un peu. Ouais. J'ai adoré cette image. En même temps, on voit les deux jambes et on voit ce corps que forment réalisateur et producteur. Mais il vous raconte à quel point il faut être tenace.
C'est ça.
Notamment pour faire un premier film.
C'est ça. C'est vraiment ce que j'ai voulu. C'était des entretiens à cœur ouvert. Il ne s'agissait pas d'enjoliver les récits voilà, qui ont amené à ces films, mais au contraire de mettre les mains dans le cambouis. Et c'est vrai que là, pour le coup, on parlait de Balogi et de Augure. Augure est le film qu'il s'est tourné en République du Congo. Et ça a été délicat pour plein de raisons. Pour des raisons logistiques, pour des raisons de planning, pour des raisons d'ouvrage technique, mais aussi pour des raisons météorologiques, parce qu'on apprend dans le livre que Balogi, par exemple, a construit toute une journée un décor et qu'il a fallu qu'une tempête passe pour ravager l'entièreté de ce décor. Et donc, évidemment, c'est là où il parle du fait de boiter et le producteur est là pour trouver, l'aider à trouver voilà, des solutions concrètes. Et parfois, il s'agit d'enlever cette séquence, parfois, il s'agit au contraire de réorganiser la pensée et le décor autrement. Donc voilà, c'est vraiment de la réactivité de tous les instants, en plus d'être un chemin de croix.
Vous nous donnez très très envie de les voir, ces films. D'une part, il y a une critique que vous écrivez au début de chaque entretien, et puis ensuite il y a cet entretien qui d'un coup le rend vivant, le transforme en une aventure. À un moment, on a l'impression que ça va pas se faire, ils sont désespérés, finalement l'espoir revient. Enfin, c'est vraiment une traversée sur l'océan, voilà.
C'est vrai qu'on entend les cœurs battre, quoi, j'ai l'impression.
Vraiment, et notre cœur bat en lisant le texte. C'est vraiment très très réussi. En tant que critique à Vakaen, est-ce que quand vous regardez un premier film, vous avez un regard plus indulgent, au contraire plus exigeant? Comment vous les voyez, ces films-là?
J'attends d'être surprise, en fait. C'est vraiment comment on est cueilli par la vision d'une autrice ou d'un auteur. Qu'est-ce qu'ils ont au fond de leur œil et comment ce qu'il y a dans leurs yeux trouve un écho dans nos propres regards. Et c'est vrai que les 5 films que j'ai choisis, je vais pas vous mentir, hein, ce sont des films dont je suis complètement tombée amoureuse. Voilà, je les ai sélectionnés sur cette base. Ce casting qui a été fait pour le livre de ces 5 films, c'est vraiment parce que je les aime et parce que je trouve le ravissement. Par exemple, d'Iris Kaltenbach, est un film sur l'amitié féminine. Et on ne m'avait jamais, j'ai l'impression, raconté cette amitié féminine, parfois délicate, parfois fusionnelle, parfois indélicate aussi, de cette manière-ci. Voilà, portée par une Avzia Herzi, en plus, estomacante dans le rôle principal. Donc voilà, c'est une rencontre avec des personnages, c'est une rencontre avec une façon de raconter une histoire, une façon de mettre en image aussi cette histoire. Voilà, c'est tout ça pour moi un premier film. Et c'est vrai que j'y suis très sensible parce que tout l'ADN d'un auteur ou d'une autrice est déjà là en jachère, quoi. Et donc je me dis que on va rajouter un petit peu d'eau pour faire pousser le bon engrais, et puis ça va donner des deuxièmes, des troisièmes et des quatrièmes films absolument fabuleux, j'en suis sûre.
Ce qui prouve que vous avez eu du flair aussi dans votre choix, c'est qu'ils ont été présentés à Cannes, ces films. Ils ont eu du succès, ou dans des grands festivals internationaux, ils ont eu des prix. Ils en parlent, ces réalisateurs et réalisatrices, en disant, et les producteurs et productrices, en disant à quel point il faut à la fois tendre vers la reconnaissance, penser aux paillettes, penser à ce qu'on peut allumer dans les yeux d'un jury, et en même temps ne pas s'enfermer dans les illusions ou dans des déceptions. Comment est-ce qu'il s'équilibre entre ces deux-là et comment est-ce que le producteur intervient?
Ben c'est vrai que tous les films dont on parle sont passés effectivement par le Festival de Cannes, que ce soit à la Semaine de la Critique ou que ce soit Un Certain Regard. Et Cannes est une expérience à la fois bouleversante, magique, pleine de paillettes, mais aussi très stressante. C'est la première fois, en fait, qu'ils montrent leur film à une industrie, à des professionnels, puisque Cannes est un festival pour les professionnels du cinéma, donc je comprends complètement leur angoisse, et généralement, et c'est ce qu'on apprend dans le livre, ils viennent de sortir tout juste de l'étape de post-production, ils viennent de finaliser, de poser les dernières touches au mixage son, à l'étalonnage, à l'image, etc., la musique est toute mise en place, enfin voilà, donc ils sont vraiment projetés tout d'un coup de la petite salle de montage ou d'étalonnage à ce grand spectacle cannois où ils sont sur scène, regardés. Après, ce que je trouve très beau, c'est que, voilà, ils le disent ils et elles le disent toutes et tous, c'est que tout d'un coup, le film ne leur appartient plus. Et donc voilà, il faut apprendre à lâcher le bébé d'une certaine façon. C'est ce qu'Iris Kaltenbach raconte très très bien dans son expérience de Cannes avec Le Ravissement, c'est qu'elle flottait au-dessus de son corps, elle avait l'impression presque d'être en déconnexion, mais qu'en même temps, cette joie ultime, c'était aussi de se dire que voilà, le film allait être désormais vu par d'autres perdus. Et voilà, Cannes est un lancement, et ensuite, le chemin du film se dessine. Et ce qui est très beau, c'est qu'ils ont, je crois, les uns et les autres, trouvé leur public, quoi.
Je reviens juste sur le titre, nos premiers films. Bien sûr, il y a une polysémie dans ce titre. Il y a les premiers films des réalisateurs et des cinéastes, et des producteurs, mais aussi, les nôtres en tant que spectateurs. C'est ce que vous vouliez dire aussi, nous donner envie de rester avide de ces primos réalisateurs qui font des choses si belles et si surprenantes.
Et de les suivre, c'est ce que dit très, très bien Julie Billy, qui conclut ce livre, qui est productrice, et qui dit que voilà, qu'elle espère que les héroïnes et les héros de ce livre, on va avoir envie de suivre leurs prochaines aventures, et je crois qu'ils ont tous un deuxième long métrage déjà dans leur escarcelle.
Merci beaucoup Ava Cahen d'avoir été avec nous pour ce livre passionnant qui donne très envie de voir ou de revoir leur premier film, et puis bien sûr d'attendre avec impatience leur deuxième film, leur troisième et tous les films suivants. Merci d'entretenir chez nous cet appétit du cinéma, Ava Cahen. Je rappelle que le livre que vous avez publié, Nos premiers films, est sorti aux éditions Marest, et on va se quitter bien sûr avec Alphaville qui nous donne envie de rester forever young comme ces jeunes cinéastes. Cette émission a été préparée par Zoé Coupé, Léa Weichgruss, Lisa Dejode et Nina Gandara. À la réalisation aujourd'hui, Alban Pelletier et Olivier Bétard, et à la technique, Ludovic Auger.